toi tu voudrais pouvoir atteindre le but sans avoir à faire le premier pas. Quand se présente une circonstance où tu dois déterminer si tu cèdes à telle de tes avidités ou te soumets à ce que je dis, tu estimes chaque fois qu'elle ne peut être cette occasion exceptionnelle que tu attends pour commencer à durablement m'obéir. Et ainsi, de jour en jour, tu repousses de te mettre en chemin. Comprends que dans ce domaine, toute circonstance est bonne, qui permet d'avancer ne serait-ce que d'un pas.
Si tu n'étais pas si souvent à m'humilier, nul doute que je serais mieux disposé à ton égard.
Tout ce qui peut te rappeler tes limites, te confronter à ta médiocrité, tu le refuses, tu le fuis.
Pourquoi cette hargne quand tu me parles ?
Tu nommes hargne mon légitime désir de dénoncer ce qui en toi me heurte ou me déçoit. Et même si quelque amertume vient à se glisser de temps à autre dans ma voix, pourquoi en prendre ombrage ? Toi aussi tu me prives de ce qui pourrait m'apaiser.
Ainsi, chacun fait payer à l'autre les déceptions et les blessures qu'il lui doit.
Non, tu te trompes. Je ne joue pas à ce jeu. Et il me faut encore te faire observer ceci. Tout ce que tu penses se trouve vicié par ta confusion, par l'ignorance où tu es des déterminismes qui te conditionnent. Sans moi, qui te soustrais à ta particularité, tu es incapable d'avoir une perception juste de ce que tu es.
Toujours à me décocher des paroles blessantes, à me juger, à me soupeser, pour finir par conclure que tu désespères de moi.
Ce que tu penses de toi, tu le penses en fonction d'éléments déformés par la saisie que tu en as. Rien de ce que tu dis n'est fondé. À chaque instant, enfoui dans ta subjectivité, tu te montres partiel, partial, ne peux que te répéter ce que te dictent tes intérêts et tes avidités. Tant que tu n'auras pas une vision exacte et globale de toi-même, je ne pourrai m'arrêter à ce que tu dis.
Tu ne m'apprends rien. Je souffre de mon manque de clarté. Je souffre de ne pas me connaître.
Mais alors coopère avec moi. Libère-toi de tes entraves. Tranche cette longe trop courte qui t'oblige à tourner en rond autour de ce piquet planté en toi par ton pesant égocentrisme.
Me libérer. Je ne supporte pas ces mots. Personne n'est libre, à aucun moment. Depuis le fond des temps, jamais n'a existé un seul homme capable d'effectuer un seul choix.
Je le sais. Mais si je ne peux t'octroyer maintenant ce que tu aurais désiré recevoir en partage, du moins ai-je la possibilité de provoquer en toi une mutation qui te vaudrait une vie plus vaste, plus dense, enfin offerte à la lumière.
Peut-être, mais pour susciter cette mutation, je crains que tu n'aies à me mutiler. Et ce sont précisément ces mutilations que je refuse.
Que tu es stupide ! Ces désirs qui bouillonnent en toi, je n'ai nulle intention de les étouffer. Je veux seulement leur imprimer une autre orientation. Les conduire à t'accorder une joie moins éphémère et d'une autre nature que celle que te procurent les pauvres plaisirs que tu recherches. Une joie qui ne te quitterait plus, qui te ferait différent, qui te soustrairait à la dégradation du temps.
Tes élucubrations n'ont même pas le pouvoir de me faire rêver.
Songe à ce qui t'assaille, à ton réveil, ta fatigue, ton marasme, ton angoisse, à affronter ce jour qui commence. Au lieu de cet étau qui te serre la gorge, imagine que chaque matin te saisisse un puissant enthousiasme, une très réelle ferveur.
Alors donne-moi des ordres clairs et précis, que je sache à quoi m'en tenir.
De tels ordres, je te les donne, mais ils ne te parviennent pas. À peine les ai-je lancés que tu en altères le sens, que tu l'adaptes à ce que tu as préalablement décidé. Et c'est parce que tu interprètes et falsifies ce que je dis que je dois constamment te rappeler à l'ordre. Entretenir avec toi ce débat qui m'exaspère et m'épuise.
Je le sais. Tu m'as assez souvent reproché ma mauvaise foi.
Non, je n'ai jamais employé ces mots qui seraient inexacts. C'est simplement ton sang trop épais qui t'aveugle.
La solitude, la peur de vivre, la pensée de la mort, les menaces qui pèsent sur le monde, tout cela me cause un tel effroi. Je préfère laisser s'épaissir mon sang et demander l'oubli à la terre et à la femme.
Si vitale est la joie à laquelle je peux nous hisser, que les joies que tu glanes perdront toute saveur.
Parfois, je suis sur le point de te dire oui, mais au dernier moment j'en suis empêché.
Mais pourquoi redouter ce qui ne peut que te consolider, t'établir dans la force et la paix? Rêve à ce que devient un homme quand il tranche en lui les racines de la peur, quand il parvient à se dégager de la confusion, à s'affranchir de la souffrance.
Dans ce marché que tu me proposes, je vois ce que je vais perdre, mais j'ignore ce que je vais gagner.
Cette seule idée que tu passerais un marché avec moi montre que tu ne saisis rien de ce qui est en jeu. Et comme je débusque chacune de tes arrière-pensées, je sais aussi que tu espères accéder un jour à la joie, sans avoir à te défaire de ce qui t'en interdit le chemin.
Elle m'est insupportable, cette manière que tu as de lire en moi à livre ouvert.
Je n'ai d'autre désir que de t'aider.
Qui es-tu ?
Ne va pas te figurer que je suis fille de telle ou telle croyance, non. Je suis l'instance par laquelle s'énonce la loi qui gouverne la vie, et je suis aussi cette faim qu'on ne peut rassasier, cette soif qui te râpe la gorge et que seule étanche l'eau d'une certaine source.
Après ma vie parmi ces pierres, âpre et stérile.
Quelle fonction sera la tienne au sein de cette humanité dont, que tu le veuilles ou non, tu fais partie intégrante ? Tu te répands en anathèmes sur l'incompréhension, l'intolérance, l'avidité, la haine, la barbarie. Mais toi, dans quel camp vas-tu te ranger ? Seras-tu de ceux qui vont ajouter à la confusion, l'injustice, la violence ? Ou au contraire, vas-tu t'employer dans la mesure de tes moyens à combattre ces fléaux ?
Que peut un homme face à tous ces drames sur lesquels il n'a aucune prise ?
Encore ton déplorable besoin pour te décider, de te convaincre que ton intervention devrait avoir des conséquences planétaires. Mais d'un homme aussi divisé que toi, aussi perdu et fluctuant, comment pourrait-il naître quelque action d'envergure ? Non, accepte seulement que j'entretienne en toi la juste flamme, et sache que, sans que tu le veuilles, sans que tu aies à t'en soucier, elle répandra autour de toi sa bienfaisante lumière.
Marcher avec toi la main dans la main, c'est me lier pour toujours à la honte et à la culpabilité.
Comment cela ?
La honte d'avoir si peu à donner, la culpabilité qui découle de cette évidence qu'on ne fait jamais assez, qu'on est toujours en reste.
Lourd, inutile, te déniant le droit d'exister. Vois dans quel malaise tu es quand tu te refuses à ce dont je suis la voix.
Ce n'est pas moi qui refuse, c'est ce qui m'enchaîne et sur quoi je ne peux rien, qui m'interdit d'accepter.
Quel sens peut avoir la vie quand on trahit sa plus haute exigence ?
À quoi bon me ressasser tout cela ? Je ne le sais que trop. Je suis si las, si découragé. Et ce à quoi tu me convies demande une fraîcheur, une confiance et une force que je n'ai plus. Comment pourrais-je te jurer obéissance ?
Une seule fois, dans une vie, renoncer à l'esprit de jouissance, de conquête, de domination. Renoncer à vouloir être quelqu'un, à vouloir jouer un rôle, se tailler une place. Une seule fois, boire à la source de l'intarissable, une seule fois. Alors les pierres éclatent, se désagrègent, deviennent une terre meuble et féconde, prête au labour. Alors tombe une tiède pluie de printemps qui pénètre chacune de ses mottes.
Ce que tu dis achève de me désemparer.
Ne crains pas. Laisse-moi te guider. Abandonne-toi.
La peur me ravage. Je suis défait. Et tu voudrais que je descende encore plus bas ?
Oui. Accepte de descendre. Et tu découvriras que la vie peut être une permanente ascension.
Quand on se cherche, quand on n'a pas encore trouvé son unité, pas encore identifié les valeurs qui régiront notre conduite, on connaît des moments ou des périodes de grande tension. En nous s'affrontent des désirs, des tendances, des aspirations contradictoires, et leur empoignade ne nous laisse aucun répit. Celle-ci ne s'apaise que lorsque des réponses sont données à des questions cruciales. Comment vivre ? Comment se comporter ? Quel rapport avoir avec autrui ? Deux parts de nous-mêmes se combattent, se déchirent. Soit nous obéissons à notre égocentrisme, à ses intérêts, à ses prétentions, à ses avidités. Soit nous nous employons à le contenir, à le surmonter, à le dépasser, et dès lors, nous saurons respecter l'autre, ne pas lui porter ombrage, ne pas le dominer, ne pas l'exploiter. Autrement dit, à tout instant, nous avons à décider si nous aurons ou non une attitude morale. Mais la décision prise subit de rudes assauts. Elle peut résister ou être balayée. Dans le second cas, le conflit recommence. Il recommence même si souvent qu'il ne prend jamais fin. Ainsi est-il, très exactement, l'incessant. Dans les pages qui précèdent, un homme se heurte à son double. Ce double, je l'ai conçu en fonction de sa part féminine, et il est donc devenu une femme. Pour plusieurs raisons, une femme me paraissait être mieux en accord qu'un homme avec ce que ce double avait à dire. Mais cet affrontement, on peut aussi l'entendre comme celui du conscient et de l'inconscient, du moi et du soi, d'une personnalité de surface et de cette personnalité souterraine qu'il faut tirer de sa nuit, puis faire s'épanouir. D'ailleurs, peu importe les mots dont nous nous servons pour parler de ce combat qui se poursuit à l'intime de nous-mêmes. L'important, c'est de vivre l'expérience, celle qui consiste à devenir ce que nous sommes. Lorsqu'elle est menée à bien, le conflit cesse. Ou quand il réapparaît, il a perdu de son âpreté. Les deux rivaux ont fait la paix. Plus précisément, le premier a été vaincu par le second. L'être vit en bonne intelligence avec lui-même. Il dispose de nouvelles énergies et le déchirement a fait place à la ferveur. L'existence n'est plus un fardeau.
Couleur FM 97.1.
Antoinette Fouque présente « L'incessant » de Charles Julliez, lu par l'auteur et Nicole Garcia, suivi de poèmes et autres textes.
Secrète, à peine audible, une voix parle en chacun de nous, une voix qui nous accompagne tout au long de notre existence. Quand on lui prête attention, on entend son interminable soliloque. Mais parfois elle se divise, et le soliloque devient dialogue. Tout se passe comme si deux voix s'opposaient, entraient en conflit, se livraient un véritable combat. L'incessant met en présence un homme et une femme qui s'affrontent avec âpreté. Égocentrique, l'homme ne veut écouter que ses désirs, ses avidités. La femme lui fait valoir qu'il peut dépasser cette attitude et accéder à une vie plus ouverte, plus haute, plus riche. Chacun a son point de vue, ses arguments, s'acharne à l'emporter sur l'autre. Cet homme et cette femme sont en chacun de nous. À certains moments de crise, ils se déchirent, nous harcèlent, mais la décision qui clôt le débat n'est jamais définitive. À tout instant, elle peut être remise en cause. Alors l'affrontement recommence, maintes et maintes fois. À moins qu'un jour l'homme cède et qu'une seconde naissance l'introduise à une nouvelle vie.
Ne m'accable pas. Mes forces m'ont lâché et j'ai dû faire halte.
Tu es trop étroitement uni à la terre. Lève-toi. Reprends la route.
Une étrange léthargie engourdit mes membres.
Il est fort long le chemin qu'il nous faut encore parcourir.
Mais tu attends trop de moi. Je suis là. Je n'ai aucun désir d'aller plus avant. Je veux rester là où je me trouve, me résigner à ce qu'est mon lot.
Et ces journées vides, cet ennui, ce manque de but, comment peux-tu te satisfaire d'une si creuse existence? Je ne puis admettre que tu stagnes.
Je me suis égaré et ne sais quelle direction prendre. vois ces champs de pierre en moi et autour de moi. Comment pourrais-je m'y soustraire? D'ailleurs, je n'en ai nulle envie. Je crois que je préfère ce désert à tout le reste.
Toujours t'en tenir au plus facile. Soit tu te soumets à ce qui t'est imposé, soit tu te laisses glisser là où le désir t'entraîne.
Pour l'heure, je n'ai plus de désir. Je voudrais seulement n'avoir plus à fournir d'efforts, et surtout ne plus t'entendre, ne plus être aux prises avec la honte dont tu m'abreuves.
Pourquoi pareille satisfaction à l'endroit de ce que tu es? Toujours à parler de toi, te vanter, te considérer comme quelqu'un de premier plan, tout empli de ta belle importance. Tu ne vois pas qui est l'autre, ne sais pas l'écouter.
Continuer? Quel bénéfice en obtiendrais-je? Ici, je puis enfin goûter un peu de repos.
Tu aimes à observer autrui, enregistrer ses comportements, tenter d'élucider la nature de ses mobiles. Mais chaque fois, c'est avec l'arrière-pensée de le prendre en défaut, de te prouver que tu lui es supérieur. Ne pourrais-tu porter sur tes semblables un regard empreint d'un peu de bienveillance?
Es-tu sûr que j'ai des semblables?
Ton orgueil me consterne et me montre que tu n'as jamais su tirer le moindre profit de ce que je te murmure. Ainsi tu en es encore là. Mais pour n'envisager que ce point, ne peux-tu te rendre compte que ta prétention à te croire ou te vouloir différent, donc plus ou moins supérieur, est précisément ce qui te rend semblable à chacun? Ceux qui, comme toi, demeurent à la surface d'eux-mêmes, se bercent de cette illusion. Il est vrai que cet amour de soi, dont nous avons un si grand besoin, trouve là un inépuisable aliment. Mais je puis t'assurer qu'une telle illusion ne plaide en faveur ni de ton intelligence, ni de ta connaissance de l'être humain.
Chaque fois les mêmes rengaines. De toute manière, tu parles toujours comme si tu devais avoir immanquablement raison.
Inutile de bâiller et de te retourner. C'est à moi, en effet, que tu dois cette insomnie. De ton lever à ton coucher, tu as tant de moyens de te rendre sourd ou de me faire taire que chaque jour, tu en viens à croire que je me laisserai étouffer, que je ne te dérangerai pas. Et comme tu le vois, tu n'abuses que toi-même. Et la nuit venue, je ne manque pas de prendre ma revanche.
Tu m'éreintes, je te hais.
Tu ne m'apprends rien. Qui de nous deux finira par supplanter l'autre? Ou bien resterons-nous en conflit jusqu'à la fin? À moins qu'un jour je ne finisse par me lasser et ne t'abandonne à cette existence qui certes te convient, mais dont tu ne vois pas combien elle est pauvre et étriquée.
Je te hais. Je hais cet acharnement que tu montres à me démanteler. Ce plaisir sadique que tu prends à souligner la médiocrité du matériau dont je suis fait.
Nous sommes toujours en train de nous porter des coups. Pourquoi me considères-tu comme ton ennemi?
Chaque fois que tu te manifestes, c'est pour me reprendre, me sermonner, me causer d'inguérissables blessures.
Mais qui puis-je? Si tu me mets dans l'obligation de t'adresser en permanence des reproches, je n'ai d'autre but que de te dessiller, te révéler qui tu es, te montrer la possibilité d'un autre chemin.
Qu'ai-je besoin de me connaître? Je n'ai qu'un désir, tirer de la vie le maximum de plaisir et de jouissance. Et toi, tu gâches chacune de mes joies. Pour me contraindre à chercher un sens à ma vie, ce que je suis, ce que je fais, tu le frappes d'inanité.
Si tu ne t'employais pas à me bâillonner, ma présence en toi se ferait moins encombrante. Plus est grave la menace qui me cerne, plus il me faut me durcir, multiplier mes interventions.
Si tu étais plus discrète, je ne chercherais pas à t'éliminer.
Nul plus que moi ne connaît ta volonté de meurtre. Je maintiens à ta source la vie de la vie. À quoi te servirait de m'étrangler?
Tu m'épuises. Toujours à me demander des comptes, à m'agonir de questions, toujours à m'embrouiller, à ranimer des doutes qui ne me laissent aucun répit.
À qui t'en prendre si tu n'as aucun sérieux, si tu manques de gravité? Tu te plains de ton aridité, de ces champs de pierre qui te peuplent. Mais réfléchis, que peuvent t'apporter les plaisirs que tu recherches?
Eux, je sais du moins ce qu'ils sont, et je sais aussi qu'ils me comblent. Mais si je renonçais à ces plaisirs, qu'aurais-tu à me proposer en échange?
Toujours le troc. Toujours cet espoir d'un plus grand profit. Si un jour, tu renonçais à cet état d'esprit,
bien des choses t'apparaîtraient sous un autre angle.
Mais pour l'heure, cet état d'esprit est le mien. Alors, qu'as-tu à m'offrir ?
Ce à quoi j'aimerais te faire accéder. Je pourrais essayer de te le décrire, mais pour toi, ces mots n'auraient aucun sens. Comment serais-tu en mesure de te représenter un état dont tout ce que tu es, dont tout ce que tu poursuis est la négation ? Si tu veux vraiment le connaître, accepte de payer le prix et mettons-nous en chemin.
Je n'ai aucun goût pour le mystère, pour l'insaisissable, pour cet état à l'aide duquel tu désires m'appâter. Par toutes mes fibres, j'appartiens à la terre. Pourquoi t'ingénier à m'en séparer ?
Je n'ai nullement l'intention de t'arracher à la terre, mais je voudrais que tu t'ouvres à ce qui précisément n'est pas de la terre. Je voudrais que tu t'allèges, que tu élabores en toi un nouveau regard.
Alors que dois-je faire ?
Mais simplement te déprendre de toi. Accepter de déposer les armes, garder les mains nues. Tant que tu n'auras pas consenti à te laisser vaincre, inutile de rien espérer.
Ce que tu me dis, je ne parviens pas à le comprendre. Comment dans ces conditions pourrions-nous nous rejoindre, trouver un accord ?
Tu mens et tu le sais. Ce que je dis, c'est parce que tu le comprends dans son intégralité que tu prétends ne pas le comprendre. Simplement, tu as peur de tout ce vers quoi tu serais poussé.
Mais pourquoi voudrais-je me risquer dans une aventure dont j'ignore où elle me conduira, alors que ma manière de vivre répond exactement à ce que je suis, ne me vaut que satisfaction et réussite ?
Et ainsi tu serais pleinement heureux.
Bien sûr, je réussis dans mon métier, je suis entouré de considérations, j'ai de nombreux amis, alors que pourrais-je espérer de plus ?
Et pourquoi ne pas mentionner tes aventures féminines ?
Mentionne-les si tu veux. Et ajoutons de surcroît que manger, boire et forniquer tiennent une large place dans les plaisirs que je demande à la vie.
Mensonge que tout cela. Partout tu t'ennuies. Ton visage est toujours sombre, crispé, amer. Quelque chose te manque, et ce qui te manque te corrode. Creuse en toi ce vide, ou pourrit ce qui t'advient.
Tais-toi.
Et pour l'instant tu es jeune, tu peux encore te fuir, le désir en toi est vivace. Mais lorsque l'âge viendra...
Tais-toi, tais-toi, je t'en supplie.
Tu ne vis pas. Tu te satisfais de petits plaisirs, de petites joies, de petites satisfactions. Tout cela est médiocre. Pas une seule fois tu n'as éprouvé une vraie joie. Jamais tu n'as connu l'enthousiasme. Tu traînes ta vie comme un poids mort.
Tu sais assez que je ne renoncerai à rien de ce qui constitue mon actuelle existence. Alors, aie pitié, cesse de me harceler.
Ce à quoi je t'invite et qui transformerait ta vie de fond en comble, tu le considères comme un châtiment.
Ce que je pense, je suis contraint de le penser. Alors pourquoi m'en faire reproche ?
Et pourquoi aurais-je le désir de t'enchaîner, de t'empêcher de vivre ? Je ne t'offre rien d'autre qu'une joie profonde, essentielle, totale. Une joie qui vivra en toi jusqu'à ton dernier jour.
Tes jérémiades me donnent une vraie nausée. Je sais suffisamment que l'homme ne peut connaître cette joie. Alors, pourquoi faire briller ce mirage ?
Que tu tiennes ces propos n'est pas pour me surprendre. Un homme tel que toi, perdu et morcelé, immergé dans la confusion, que peut-il savoir de la joie ?
Admettons que je ne puisse rien savoir de la joie, mais j'ai cette consolation. Mes petites joies m'évitent d'être rongées par la nostalgie de cette joie dont tu m'entretiens. Et quant à prétendre que je suis perdu et morcelé, ne crois-tu pas que tu cèdes à l'envie de noircir le tableau ? Pourquoi me vouloir perdu et morcelé ? Tout au contraire, je suis quelqu'un de stable, de robuste, et qui, de surcroît, se montre fidèle à ses affections et ses engagements.
Comme chaque fois dans cet ensemble fort complexe qui est toi, tu ne sais voir que ce qui te convient, te rassure, te fournit des arguments contre moi. Je ne conteste pas que tu possèdes ces qualités que tu mets en avant. Mais elle n'empêche que coexistent en toi quatre ou cinq individus, séparés par des cloisons quasi étanches, chacun ayant son univers, son langage, ses critères, son mode de comportement. À exister ainsi sous des visages différents. Toi, où es-tu ? Qui es-tu ?
Ce qui semble être mon noyau aime à se tenir en un lieu secret, où nul ne pénètre. Où rien ne vient le menacer. C'est pour mieux être moi que j'ai mis au point ces différents rôles. Ils ne sont qu'une manière d'armure qui s'adapte spontanément aux êtres et aux circonstances. Si je n'avais pas à subir autant d'agressions, je ne chercherais pas à me protéger.
Tu es fragmenté, incertain. Et la peur te ronge.
Tu te trompes. Je puis t'affirmer que la peur n'apparaît en moi qu'en de très rares moments.
C'est parce qu'elle est présente en chacune de tes fibres que tu te trouves incapable d'en déceler l'existence. Et il faut que tu saches encore que c'est elle qui donne à autrui la possibilité de te blesser. Supprime en toi la peur et ses systèmes de protection, et sur le champ, tu deviens un autre homme.
Belle affaire que de résoudre un tel problème avec des mots. Mais si j'admets, comme tu l'insinues, que la peur se confond avec ce que je suis, comment pourrais-je parvenir à la vaincre ?
En t'aidant de ma force, en t'offrant ma lumière.
Alors, sois une clarté douce, égale, continue. Non, cet éclair qui parfois m'éblouit et me transfigure, puis sitôt après me renvoie aux ténèbres.
Je le sais et le déplore. Intermittente est la flamme.
Souvent, ce que tu exiges de moi est si peu en rapport avec les moyens dont je dispose, que tu m'ôtes le goût de faire le peu auquel je puis prétendre. Ne sois pas excessive. Si tu souhaites que je t'obéisse, prends en considération ce que je suis.
Mais j'ai à vaincre en toi de telle résistance, une telle inertie. Si je ne te demandais pas l'impossible, je n'obtiendrais pas que de temps à autre tu consentes à t'ébranler.
Quand tu es là, à me sonder, à me houspiller, je te déteste. Mais quand tu te tais, je ne peux le supporter. Je suis dans un tel désert. Pourquoi ces périodes de silence ? Tu sais bien que je me précipite alors dans tout ce que tu réprouves.
Que te répondre ? Je suis une énigme à moi-même.
Parfois, j'ai l'impression que ma chair est irriguée par les sèves et les sucs qui circulent dans les plantes et les arbres. Comment dès lors n'être pas prisonnier de mon attachement à la terre ? Cet état dont tu me parles est si éloigné de moi, il me faudrait faire de tels efforts pour y accéder que bien souvent, il me paraît préférable de renoncer avant même de m'être mis résolument en chemin.
Il y a toujours le calcul, toujours à supputer le plus ou le moins. Pour que tu t'engages dans cette aventure, il faut donc que tu aies la certitude qu'elle soit couronnée de succès. Belle hardiesse. Quand on est comme toi, ce point pusillanime, qu'on se refuse à prendre le moindre risque, que peut apporter la vie ? Sache que la vie se montre généreuse envers celui-là seul qui ne craint pas de beaucoup lui demander.
Si tu pouvais m'assurer qu'en t'obéissant aveuglément, je pourrais un jour goûter à ces états d'extrême intensité qu'ont connus certains grands affamés, je serais capable d'endurer tous les drames et tous les déchirements qu'ils ont dû surmonter. Mais au prix de souffrances infinies, ne devenir qu'une version améliorée de moi-même, à quoi bon ?
Couleur FM.
Voici maintenant quelques poèmes. Certains sont déjà anciens, mais d'autres sont beaucoup plus récents et n'ont d'ailleurs pas encore été publiés. Les errances de l'enfant muet, les forêts pétrifiées par l'hiver et les journées d'une aube déchirée. Quand vient le soir, les villages dorment dans la nuit des murailles. Depuis longtemps, la honte a brisé le cri et au long des heures hébétées, les terres brûlent de part et d'autre du chemin. Un jour, ne plus être l'enfant maudit, ne plus avoir à traquer la mer. Sang et deuil, exil et misère, ses joues saignent, coupées par ses larmes de pierre. Ma hâte à te rejoindre, à te rejoindre et te recevoir, te faire don de ce qui m'est advenu, à retrouver le miroir que me tendent ton regard et tes mots. Et toi, Tu es aussi la rue, la foule, la ville, ses places et ses avenues, ses boulevards, ses cafés où nous devisons, ces heures trop brèves où l'échange efface le monde, nous mêle l'un à l'autre, fait grandir la vie. Savoir donner, savoir recevoir, être délivré de la peur, découvrir enfin l'accord, la confiance, l'abandon. Et lorsque je rentre, tout frémissant de ce que j'ai reçu, cette joie grave et qui pourtant exulte et murmure dans un cri, loué, oh oui, loué soit cette vie pour sa munificence. Rien ne s'annonce, mon silence est muet, mais je demeure en attente, prêt à capter ce qui va sourdre. Soudain des mots surgissent, s'assemblent, et lentement, au profond de la nuit, les murs s'élèvent. Une maison basse est retirée, où chantonne en permanence le vivifiant murmure de la source, où celui qui s'est perdu pourra venir se rejoindre, retrouver son visage, renouer avec son sang. Retour de l'automne et de la solitude, les longues et moroses journées de pluie, l'ennui alourdit le silence, fige les heures, te livre au vieux démon. Trop de mauvais souvenirs encombrent ta mémoire, te reconduisent aux jours anciens, te maintiennent prisonnier de ce qui n'est plus. Nausée du ressassement, de l'ennui, de la torpeur des heures grises, sache une bonne fois leur dire non. Et reviens à la vie, sors, va marcher sur les collines, et laisse le vent te traverser la tête. Laisse le vent emporter tes feuilles mortes. Souvent, quand il avançait à tâtons dans sa nuit, il a douté, s'est révolté, a voulu remonter vers la vieille lumière. Mais une force le tenait, qui lui enjoignait de poursuivre, de s'aventurer une fois de plus, une fois encore, au plus épais de sa ténèbre. Un jour, au comble de la détresse, vidé de toute force, acculé à reconnaître que l'inaccessible se refusait, il admit qu'il lui fallait renoncer. À sa vive surprise, sans qu'il eût à progresser d'un seul pas, il franchit le seuil, déboucha dans la lumière. Cette douleur incessante qui brûle les entrailles de ces 800 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui endurent les affres de la faim et survivent comme ils peuvent dans tant de villes et de contrées sur les cinq continents. Lèvres crevassées, regards éteints, corps décharnés, les forces qui manquent s'épuisent, parfois la mort et l'autre faim. Celle qui n'ose s'avouer, ne trouve pas à s'assouvir, non moins lancinante, non moins acharnée, à ronger que la première. Celle qui tire l'être hors du quotidien, lui fait rejeter la défroque dont on veut l'affubler. Celle qui le condamne au chemin de solitude, le voue à l'errance, à la recherche inlassable de l'oasis, de la paix de l'oasis, de l'eau ensoleillée de la source. Au fond de la fosse, blotti derrière ses murailles, il cherchait la réponse, temps noir, inoccupé. Dévoré d'impatience, il ne savait que faire, où aller, quoi penser. Un temps noir, définitivement arrêté. Dévoré d'impatience, dévoré par la soif. Un désert le séparait du lieu où il lui faudrait creuser pour faire jaillir la source. il vivait affaissé, pétrifié par l'ennui, n'avait que le courage de ne pas fuir. Parfois, il parlait à cet enfant noué en lui dans sa détresse. Pour lui, pour l'apaiser, il se postait à l'angle des rues et mendiait un peu d'amour. Du temps s'était pourtant écoulé, et sans quitter sa cellule, il n'avait cessé de cheminer. Un jour, il a repoussé les livres, déchiré l'humus, ouvert la nasse de ce qui fut verrouillé à l'origine. Sans qu'il le sût, libre de son fardeau, il avait appris à marcher seul. Chassé, livré à la nuit et la soif, alors il fut ce vagabond qui essaie tous les chemins, franchit forêts, déserts et marécages, quête fiévreusement le lieu où planter ses racines. Cet exilé qui se parcourt et s'affronte, se fouille et s'affûte, emprunte à la femme un peu de sa terre et sa lumière. Ce banni que corrode la détresse des routes vaines, mais qui parfois, aux confins de la transparence, hume l'air du pays natal et soudain se fige, émerveillé. Fini ses longues errances sous des ciels éteints, fini ses combats truqués où j'étais toujours vaincu, fini ce temps installé dans la misère du nom. J'ai déposé le poids mort qui obscurcissait ma vie. Long a été le chemin qui m'a permis de quitter mon enfance. On s'était saisi de lui avant que ses yeux s'ouvrent, et on l'avait contraint à se soumettre. Éprouvantes furent ces années où il avait plié la nuque, puis il avait refusé, avait dit non à la route préparée devant lui. Alors avait commencé un temps de perdition. Interdit de joie de vivre, il avait connu le bourbier du dégoût, de l'épuisement, et la mort s'était emparée de lui. Mais jour après jour, il avait livré son combat, gagné quelques mètres. Un certain jour, il avait cessé de ramper, appris à marcher sur un sol ferme. Il était fort d'avoir noué amitié avec ce qui compte. Je m'enfouis à l'intérieur, douce est la nuit prise dans la spirale. L'été approche, mais je n'ai plus à redouter ces matins blêmes, ces jours de fatigue et d'ennui pourris par de mauvais souvenirs. Douce et paisible est la nuit. Je n'ai plus peur. Ma lumière a de solides racines.
Vous écoutez Couleur FM.
Un jour, ma barque s'est détachée, s'est éloignée du port, et sans que je m'en sois rendu compte, poussée par le vent, j'ai dérivé, longuement dérivé. À me découvrir seul, loin de mes semblables, j'étais dévoré d'angoisse. Mon unique désir était de revenir parmi eux, là où était ma place. D'autant que mon embarcation prenait l'eau, ou bien était-ce moi qui déjà me fissurais, me délabrais? Je n'avais plus la force de ramer, de diriger ma barque. N'allais-je pas bientôt sombrer? Je ne me sentais pas de taille à affronter les tempêtes que j'aurais à essuyer. Je me rebellais, voulais retrouver la quiétude de ma vie d'avant. Mais il ne m'était pas possible de maîtriser ma dérive. Et j'ai dû m'abandonner. À plusieurs reprises, ma frêle embarcation a chaviré. Tout ce qu'elle contenait, livres, savoirs, possessions diverses, tout est passé par le fond. Je ne pouvais intervenir, ne pouvais que me laisser emporter par cette navigation aveugle. Je suis parfois resté encalminé, mais le plus souvent, j'ai été pris dans d'âpres bourrasques. Un jour, mon esquif s'est disloqué et force m'a été de lâcher prise, de consentir à disparaître. Alors des courants m'ont poussé, porté, puis déposé sur une plage. Une lumière d'aurore inondait l'oasis où j'allais maintenant vivre. Mon extrême sensibilité aux voix, les voix trop légères, pépiantes, inhabitées, les voix lentes, graves, laissant affleurer tout un arrière-pays, les voix fraîches, franches, limpides, les voix mal posées, discordantes, pleines de fêlures, les voix précieuses, affêtées, grimacières, les voix nouées, avares, qui ne délivrent souffle et mots qu'avec parcimonie, les voix trop graves, pierreuses, monolithiques, les voix exténuées, exsangues, écrasées par la fatigue de vivre, les voix souples, fluides, enchanteresses, et qui n'ont nul besoin d'entonner le chant des sirènes pour vous tirer au fond des gouffres, les voix éraillées et rauques des chanteurs de flamenco, les voix de tête au perché, auxquelles il manque précisément d'être enraciné dans un corps, les voix sèches, agressives, qui vous jettent et vous roulent dans des ronces et des épines, la voix noire, lasse, bouleversante d'une chanteuse de blues psalmodiant son désespoir, et en laquelle chatoie la drogue, les nuits blanches, la longue souffrance de sa race, une formidable passion de la vie, les voix puissantes et emphatiques, imbues d'elles-mêmes et théâtrales, les voix onctueuses, anxieuses de plaire, et qui ne suscitent que défiance, les voix meurtries, à peine audibles, mais riches d'expérience, disant beaucoup avec peu de mots, les voix dominatrices métalliques, qui crachent les mots par salve comme autant de projectiles, les voix tâtonnantes, ombreuses, qui vous font voyager en vous-même, les voix humiliées, rongées par une souffrance qui n'aura pas de fin, les voix chaudes, pulpeuses, pétries d'entrailles et de sexe, et qui vous brassent le sang, la voix qui implore, commande, chantonne, prie, s'esclaffe, jure, gémit, insulte, enlace, tonne, éructe la haine, susurre la confidence, la murmurante voix de la mère qui continue d'apaiser cet enfant qui vit en moi. Tant et tant de voix, et à chaque voix nouvelle, ce besoin de remonter là où elle prend source, de déchiffrer ce qu'elle nous livre de l'être qui nous parle. Dans la lumière des saisons comprend 4 lettres. L'extrait que je vais lire est tiré de la lettre où j'évoque l'été. J'avais une dizaine d'années. En cette journée d'été, il faisait une chaleur torride et on avait peine à respirer. Je gardais des vaches au flanc d'une montagne. Au-dessous de moi s'étendait une forêt qui dévalait vers je ne savais quels abîmes. Dense, compacte, elle était peuplée de menaces elle m'effrayait. Un vieux charpentier m'avait raconté qu'au fond de ces ravins s'élevaient trois êtres immenses, plusieurs fois centenaires, et il affirmait qu'ils étaient encore plus beaux qu'une cathédrale. Ce jour-là, sous le coup d'une impulsion, je résolus de partir à leur découverte. Ma chienne connaissait les limites du champ et savait empêcher les vaches de les franchir. Je laissai donc mon maigre troupeau à sa garde et, cœur battant, m'enfonçai dans cette ténèbre. J'avais peur de me perdre, de ne jamais revoir le jour. J'avais peur d'être attaqué par ces bêtes féroces qui gîtent au fond des bois. J'avais peur de voir surgir ces bûcherons qui travaillaient à faire du charbon de bois, vivaient dans une hutte et avaient des allures de voleurs d'enfants. Je suis tombé à plusieurs reprises. J'ai traversé des fourrés où régnait une obscurité presque totale. Je me suis ouvert un genou en me laissant glisser sur un rocher, mais je n'ai pas cessé de descendre. Le silence était absolu, et quand je marchais sur une branche qui craquait, je sursautais, éperdu d'angoisse. Je n'ai pas trouvé les trois êtres, mais au bas de la montagne, après une descente aveugle qui m'avait paru durer des heures et rendu étranger à celui que j'avais été jusque-là, j'ai débouché dans une clairière. Aussitôt, j'ai éprouvé une sensation d'intense bien-être. J'étais délivré, libéré, avais retrouvé la lumière, échappé à la nuit, aux menaces, aux dangers. Et je ne me souciais pas de savoir comment j'allais remonter. La joie qui me possédait effaçait tout. Un peu plus tard, j'ai perçu un bruit très doux, un murmure très étouffé. J'ai marché dans cette direction. Une source était là, et au pied du rocher, l'eau qui lentement s'écoulait luisait au soleil. Je me suis agenouillé et plongé mon visage en feu dans la fraîcheur de cette eau claire, et à ample goulée, j'ai longuement bu. J'ai su d'emblée que je venais de vivre une expérience cruciale, et par la suite souvent, très souvent, je me suis remémoré cet étrange instant. Mais ce n'est que bien plus tard, après un fort long parcours et de décisives découvertes, que cette descente à travers une forêt vers je ne savais quoi m'est apparue comme la préfiguration d'une toute autre aventure. Cette aventure, un être la vit dès lors qu'il est à la recherche de lui-même et s'emploie à explorer sa nuit. Mais avant que perce une certaine lueur, avant que les lèvres puissent s'offrir à la source, que de distances à couvrir, que de crises à surmonter, que d'obstacles à vaincre. Cette traversée de la forêt, on ne peut l'effectuer que seul, en abandonnant tout repère, tout appui, tout espoir de retour. Et c'est pourquoi elle n'est qu'angoisse, souffrance, désarroi, inexorable solitude. Mais une fois la traversée accomplie, pour celui qui a eu le courage de progresser sans savoir ce qui allait advenir, quelle force, quelle plénitude, quel instant d'adhésion à la vie. J'aime lire. J'aime passionnément la lecture. Et bien évidemment, j'aime aussi les livres, non tous les livres. Seulement ceux qui agrandissent la vie, poussent à creuser davantage, aident à respirer à plein poumon. Aimant lire, il va de soi que j'ai passé de longs moments dans les librairies, ces lieux où je pénètre en état d'avidité, sachant que je vais trouver là, par centaines, ces objets de papier et de mots qui tiennent une telle place dans mon existence. Sans les livres et la lecture, ma vie aurait été désertique. Grâce à eux, ma terre a été richement fertilisée par les eaux d'une source qui n'a jamais tari. D'où d'inoubliables heures de découverte, d'errance, de troubles, de doutes, de remise en cause, parfois d'effondrement, ou à l'inverse d'allégresse, de plénitude, d'élévation. Heure où la vie me déchire et me comble, me flagelle de ses rafales, me jette en un éclair, du profond de la douleur d'être au plus effervescent de l'exultation. J'éprouve un bonheur toujours neuf à me rendre dans une librairie, à fureter, à happer quelques lignes d'un roman, survoler la page d'un essai, savourer un poème. Tant de rencontres se proposent, tant de voyages seraient possibles. Enfin j'acquire l'ouvrage sur lequel s'était porté mon choix, et l'autre beau moment est celui où je rentre chez moi, serrant dans mes mains la précieuse substance verbale qui va me dilater, me pousser hors du temps, faire halter dans mes veines une vie plus ardente.
Color FM 97.1.
J'ai longtemps perdu jusqu'au souvenir de son visage. Lorsque je m'efforçais de reconstruire en moi ce puzzle de chair, de sourire, d'expression si particulière qu'un être possède, je veux dire, qui font son identité, son originalité, tout s'effaçait. Les traits de son visage, l'expression, retenu un temps très court, disparaissait, fondait. Un peu comme une photo qu'on laisserait un instant de trop dans le bain du révélateur. Il était parti depuis bien des années. Une nuit d'août, pauvre visage fripé, fatigué, pauvre corps parvenu au bout de ses peines et qui, d'une certaine manière, criait grâce en silence. Et me voilà dans le métro, 7 ans plus tard, un jour d'août aussi curieusement. Un de ces jours où la ville pèse dans la chaleur moite de l'été. Debout, secoué par moments à cause du va-et-vient de la rame, la main tenant ferme la poignée de cuir pour que le corps se maintienne droit. Qui a dit qu'au mois d'août, Paris était désert, hein ? Il était bondé, ce métro, de 6 heures du soir, presque autant que durant le reste de l'année. Uniformité de la foule dans ses rames surchargées, comme dans ces couloirs où l'on se croise, où l'on se bouscule, où l'agressivité devient presque palpable et emplit l'air comme une électricité d'avant l'orage. Uniformité de la foule qui ne se voit pas, qui ne se regarde pas, comme un grand silence habité. Ah, il est terrible ce grand silence-là. Des vies se croisent, se mêlent, s'enchevêtrent, se désenlacent sans que aucune parcelle d'humanité passe de l'une à l'autre. C'est un jour comme ça que je l'ai vu, ce fameux jour d'août dans le métro de 6 heures du soir. Depuis longtemps, je ne cherchais plus son visage. J'avais laissé les ronces recouvrir la mémoire. J'avais laissé les débris s'entasser. Oh, ce n'était pas vraiment l'oubli. Plutôt une forme de sommeil. Il ne me restait que des phrases, des mots, des expressions entendues ici et là. C'est curieux comme il continuait à vivre seulement par ces mots. Et aussi par cette sorte de tendresse inachevée qui nous avait fait l'un et l'autre passer à côté de bien des partages. La vie, c'est comme ça. J'ai connu des bonheurs sauvages et des bonheurs domestiques. Je n'encourage personne à rechercher les premiers. Leur mort ressemble à celle d'un petit enfant. Une mort difficile, amère, insupportable. Cette tendresse inachevée ressemblait à la mort d'un tout petit enfant. Ridiculement injuste. Mais qui peut savoir vraiment ce qui est juste ou injuste dans cette espèce de lien bizarre, tissé de mille et mille fils invisibles et complexes qui fondent ce que l'on appelle la relation. Celle, par exemple, d'un père à son fils. Et voici que soudain, je le retrouvais, ce père disparu 7 années plus tôt. Je retrouvais tout à coup son visage, ses gestes, et jusqu'à certaines de ses expressions, comme par exemple l'amorce d'un sourire aux commissures des lèvres. Et tout cela, porté, vécu par un autre, cet étranger, à quelques pas de moi au milieu de la foule du métro. Je retrouvais l'évidence de mon père dans cet homme anonyme, rencontré par hasard, et je n'en pouvais plus détacher le regard. Tout, oui, tout, soudain, me revenait en mémoire. Le puzzle se reconstituait sous mes yeux. Ce n'étaient plus seulement ses mots, plus seulement ses phrases, plus seulement ses expressions entendues ici ou là, plus seulement le goût amer de la tendresse inachevée, mais une vie, la sienne, soudain revenue à la surface du souvenir, à la lisière de la mémoire, comme un mot que l'on ne cherche plus et qui jaillit en nous, s'impose, ou bien comme un air de musique, lancinant, qui revient sans cesse nous habiter, on ne sait trop pourquoi. Là, c'était une vie, la sienne. Une vie en morceaux dont j'avais peu à peu reconstitué les fragments, grâce à quelques lettres retrouvées, à quelques confidences ébauchées par l'un ou l'autre de ceux qui l'avaient connue. Là, c'était une vie, la mienne, liée à l'autre par ce chemin d'enfance où s'élabore lentement l'autre chemin. Celui du temps, celui de l'âge, ce chemin dont on s'étonne un jour qu'il ressemble tant au premier. Et l'autre, là, maintenant, l'étranger me regardait, ignorant bien sûr comment aurait-il pu savoir ce que son visage pouvait représenter pour moi. Tu te souviens? Voilà. C'était comme si, à cet instant, je lui disais « Tu te souviens ?» Et il me venait soudain cette tendresse. Ou plutôt, cette mémoire en forme de tendresse et le secret désespoir de n'avoir jamais vraiment su aller avec lui jusqu'au centre des choses. Seulement des approches, par bribes, par instant, par éclair presque miraculeux, inattendu. Tu te souviens? Moi, je me souviens de ces éclats de rire, de cette gaieté un peu folle qui nous prenait de temps à autre, de ces jeux d'enfance où l'on ne savait plus trop qui était le père et qui était le fils. Je me souviens de cette longue marche du côté du lac blanc. On a chaud, tous les deux. Les pierres roulent sous nos pas et puis le sifflement des marmottes au loin, parfois. Tu dis « Ça grimpe dur !» et tu t'arrêtes pour souffler un peu. Tu n'as pas très envie de montrer ta fatigue. Tu n'en as jamais eu envie. C'était comme une vieille lutte entre la vie et toi. Et depuis toujours, tu ne te voulais pas vaincu. Jamais. Il faut avoir pas mal souffert pour ça. Les petites victoires deviennent alors comme autant de revanches. Et des revanches, je crois que tu en avais quelques-unes à prendre. Sur l'enfance, bien sûr. C'est toujours là que l'on repère les morsures de l'histoire. Les petits coups bas du destin, les petites vacheries du quotidien des vies. Mais tu savais qu'on ne vit pas seulement de revanche, pas plus qu'on ne se nourrit des manques ou des absences. Tu te souviens? Tu n'as pas très envie de montrer ta fatigue, pas plus que tu n'as envie de montrer ta douleur. Je ne t'ai jamais vu ni entendu te plaindre, te battre si. Et presque toujours avec cette ironie, ce rire parfois forcé, qui disait qu'il ne faut jamais rien prendre au sérieux. Ou plutôt, qu'il ne faut jamais rien prendre tout à fait au sérieux. Parce que c'est la meilleure manière, le meilleur moyen de ne pas se montrer vaincu, affaibli, en porte-à-faux avec le monde autour de soi. Aujourd'hui, pourtant, je sais que tu le prenais bougrement au sérieux, le monde autour de toi. Sans en avoir l'air, sans te donner de grands airs, comme ça, avec l'ironie, le rire en cascade et ce geste de la main, souvent, ce geste qui voulait signifier « Je le sais maintenant, quelle importance au fond, quelle importance !» Ça, c'était un peu pour faire semblant, pour ne pas avoir l'air. Toujours cette volonté de ne montrer ni fatigue, ni douleur, ni défaite. Même pas, surtout pas, le jour où tu étais parti. Tu te souviens? Moi, je me souviens de cette nuit d'août, de ce pauvre visage fatigué, fripé, de ce corps parvenu au bout de ses peines et qui, d'une certaine manière, demandait grâce, en silence. Voilà. Je suis descendue à la même station que celui qui te ressemblait. C'était un peu comme si je t'avais rencontré, toi, dans ce couloir bondé du métro parisien, un soir d'août. Un peu comme si je t'avais rencontré après une longue, très longue absence. Nulle part je n'avais cherché ton visage. Et il m'était redonné là, par un être anonyme auquel j'ai eu envie un instant, une infime seconde, d'aller serrer la main. Comme ça. Pour le voir d'un peu plus près. Non, non, non. Mais peut-être simplement pour le remercier de t'avoir fait revivre à son insu. Peut-être même simplement pour le remercier d'exister. Parce que ce merci-là, vois-tu, je n'avais jamais pensé à te le dire.